omnipotent avec toutes sortes de théories ou de remèdes, toutes sortes de choses que parfois on fait le plus grand bien aux humains. Une légère brise, assis au-dessus d'une montagne, une légère brise, parfois nous réchauffe le cœur, nous redonne de l'élan pour repartir travailler. Alors que sur la plage, un soleil torride et des cabanons à côté avec des bons coca et des glaçons ne nous ont apporté que très peu de choses qui sont effacées deux jours après. La légère brise dans les vents d'une forêt d'Alsace, des Vosges, une montagne étincelante qu'on regarde en Autriche. Mes amis, les choses simples sont les plus riches. Et Jésus est de ceux-là qui ont été riches parce qu'ils ont choisi l'humilité, la pauvreté. Alors, c'est une montagne d'amour, Jésus, une montagne de simplicité, une montagne de vérité. C'est ça, moi, qui m'a été révélé à 19 ans. Alors, prenons Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Je viens de dire qu'il m'a été révélé. Oui, il y a un moment donné où quelque chose vient dans notre cœur. C'est comme quand vous écoutez du Bach ou du Beethoven. Il y a un moment donné où la musique vous révèle quelque chose. Il y a tel texte dans tel livre qui vous révèle quelque chose, qui vous fait avancer. Vous allez lire des tas de livres, des tas de pages, et bien, qu'est-ce qu'ils vont retirer? Oui, c'est un paquet d'idées, mais en attendant, mais il y a des choses, tout d'un coup, bing, ça fait-il dans l'âme, et ça reste pour toujours. Et ça, c'est le propre de Jésus. Il est le vivant, il est la vie pour mon âme, pour mon esprit, pour mon corps. Philippiens chapitre 2, verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Pas d'ambition. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, doulos, esclave, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » En simple homme. Prenons maintenant Ésaïe 53. 8 siècles avant. Ésaïe. Je vais commencer au chapitre 52, verset 13. « Voici mon serviteur prospérera, donc Ibet Yahvé, c'est la condition, le nom pour un serviteur, un esclave, quoi. Prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Comment ? Par l'argent, par l'armée, par la force, par les combines ? Pas du tout. Pas du tout, les amis. Ah non. Il n'est pas de ce bois-là. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. » Alors, donc il y a une surprise qui est réservée à tous les rois, à toutes les nations. C'est ça qui est mis là. Donc Jésus, quand il parle dans Matthieu 8, c'est clair, hein, à ce banquet avec Abraham, Isaac et Jacob, il y aura des tas de surprises, des bonnes. « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. » Une faible plante, un rejeton qui sort d'une terre desséchée, dans le désert, c'est coriace. Et ça sort quand même, et ça pousse. Et le mot en hébreu, ça se rapproche très fort du nom Yeshua, Jésus. Figurez-vous. dans les pires difficultés, Jésus est là pour nous. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Je suis tombé sur un petit rapport d'un pasteur qui devait rentrer dans une église aux États-Unis, une église de 10 000 personnes. Il y a des sacrées églises là-bas. Ça rame, hein. Et pratiquement, la célébration était là, on savait qu'il allait arriver, mais il vient un homme habillé en guenilles, tout sale, avec des souliers troués, et le visage sale, et un bonnet, hein, comme un bonnet de chantier, crasseux, et qui veut rentrer. Il veut rentrer. Et ce qui se passe, c'est qu'on le refoule. On le refoule. Alors, il montre ses papiers, il montre son nom et tout, et puis il dit, je suis le pasteur que vous attendez. Après l'avoir tous refoulé, ils étaient dans la honte. Car pour eux, un homme de Dieu, c'est un homme, un super pape. C'est quelqu'un qui a un beau ramage, un beau plumage, comme les beaux perroquets. Et ici, il s'est présenté comme le plus humble et il a donné une leçon à cette église. Il a bien commencé son ministère, je vous le dis franchement. Il ne les a pas frottés dans le sens du poil, il les a pris à contre-poil, à contre-sens. Et il faut bien... Car nous sommes tous épris de gloire et de façade, de paraître. Et ça ne nous mène nulle part, surtout pas auprès de Dieu, du vrai Dieu. C'est ce qu'on appelle de l'idolâtrie dans l'Évangile. Alors, ce que je voulais vous dire, nous retournons dans Matthieu 8. Retournons en Matthieu 8. Les pleurs et les grincements dedans, c'est ceux qui sont contrariés. C'est ceux qui n'ont pas accepté de se remettre en question. Et les pleurs sont nécessaires. Les pleurs montrent qu'on a un choc et qu'on en souffre. Et les grincements de dents. J'ai rencontré pas mal de personnes qui avaient des grincements de dents et je leur ai posé la question pourquoi. C'est souvent des personnes sous tension. Énormément. Sous tension. Sous tension. Tout le temps. Vous les mettez dans un autre endroit, dans un autre milieu. Immédiatement, relax. Combien de fois nous avons reçu des gens ici? Qu'est-ce qu'on dort bien ici? Chez nous. Qu'est-ce qu'on dort bien? J'ai passé une si bonne nuit, il y avait si longtemps. Mais les amis, d'abord on rit. Et puis on aime le Seigneur. Et pendant que cette personne, après avoir mangé, échangé, etc., sympathisé, peut-être même prié avec elle, si elle veut bien, n'impose pas. Pendant qu'elle va au lit, il y a quelqu'un dans la maison qui prie pour elle et qui demande au Seigneur de lui donner la paix du ciel, celle que probablement elle ne connaît pas encore ou qu'elle a perdue. Et vous voyez, il y a donc des moments pour beaucoup d'hommes aujourd'hui, beaucoup de situations où les personnes sont sous pression, mais vraiment sous pression. Il y a de quoi grincer les dents et d'aller chez le dentiste pour les réparer. Donc les grincements de dents veulent définir une situation mal vécue. Une situation mal vécue. Donc, au verset 12, Matthieu 8, 12, les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est Israël, bien entendu, qui est concerné là. C'est que Titus est arrivé quelques années plus tard et a tout écrasé, détruit la ville de Jérusalem et brûlé les temples. Si vous allez à Rome, vous allez voir l'arche de Titus, l'arc de triomphe de Titus, et vous verrez, si vous allez tout près, vous voyez la menorah, le chandelier à sept branches, etc. Vous voyez tout, tous les ustensiles du temple sur le dos des soldats. Voilà. les pleurs et les grincements de dents. Ils ont été sous pression après. Évidemment, étant donné qu'ils ont du caractère, ce ne sont pas des chivmoles, ils se sont regroupés, ils ont fait la guérilla aux Romains, et en 135, avec un certain juif très vigoureux, Bar Kochba, ils ont mené une révolution contre les Romains, une deuxième, en 135. Et Rome, ce qui n'est jamais arrivé nulle part, a envoyé 6 légions pour massacrer 1,5 million de juifs, et tous les juifs sont partis partout dans le monde. Il y en avait déjà beaucoup de partis, mais ceux-là, éliminés ou enfouis. Donc les pleurs et grincements de dents, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de clair, c'est que Jésus annonce pour ce peuple une difficulté majeure. Une difficulté majeure due à son entêtement, à sa difficulté de voir clair, à sa difficulté d'être simple et de se laisser conduire par Jésus vers d'autres comportements que la révolte, d'autres comportements que l'entêtement, d'autres comportements que le fanatisme religieux. Regardez le monde et imaginez que Jésus vienne un jour en France, ou en Afghanistan, ou en Chine, ou en Russie, ou en Belgique. Combien le suivraient et beaucoup d'autres s'endurciraient. Au contact de Jésus, on a un choix. On trouve ce qu'on n'a jamais eu l'occasion de comprendre, on trouve la paix et le calme, la simplicité de cœur et de vie, et on trouve la révélation d'un Dieu d'amour, tout simple, qui veut une relation vivante avec soi-même, nous-mêmes, ou alors on s'entête, mais on s'entête, et on finit dans l'extrémisme, qui amène des gros problèmes. J'ai toujours refusé la révolte dans ma vie, bien que j'étais porté à ça. J'aimais la mai 68 et tout ça, tous ces principes, j'ai beaucoup lu dans tout ça. Mais ce qu'il y a, un jour, en lisant Lermontov, je lis un verset, une poésie de Lermontov. Et toi qui cherches la paix dans la révolte, alors que tu n'y trouveras que la tempête. Voilà.
C'est dans un poème qui s'appelle Le Voilier.
Dans un poème qui s'appelle Le Voilier. C'est ma conseillère biblique qui est ici à côté et qui vient de me le dire. Alors, continuons. Après cet épisode du centurion, qui nous porte à réfléchir sur la façon dont on doit se comporter en société, et les options de société qu'on doit avoir, et les options de vie personnelle, hein, et la façon dont Jésus peut nous apprendre d'autres comportements, d'autres options, eh bien, nous voyons qu'il vient chez la maison, dans la maison de la belle-mère de Pierre, au verset 14, Matthieu 8, 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Ce sont des miracles courants pour Jésus. Il y en est arrivé beaucoup, et il en arrive encore aujourd'hui. Nous avons eu la grande grâce, ici dans notre famille, dans notre église, de prier de cette manière, en demandant à Jésus de faire du bien à des personnes. Et Jésus nous l'a accordé. Pourquoi ? Nous n'en avons retiré aucun bénéfice. Et nous n'avons jamais voulu le dire pour que des foules arrivent et donnent de l'argent. Simplement que Jésus soit à l'honneur dans la vie de la personne qui soit guérie. Soit à l'honneur et qu'elle chemine avec lui. C'est simplement ça, notre but. Le verset 16, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa des esprits par sa parole et il guérit tous les malades. » Alors, c'est tout un problème, les démoniaques, n'est-ce pas? Est-ce que ça existe ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui sont habités de démons? Tout ça. Écoutez, c'est une réalité, moi, que je rencontre fréquemment. Je ne tiens pas à en faire la réclame. Elle n'est pas marrante. Et ce qu'il y a, c'est que le seul qui peut arrêter ça, j'en suis sûr, parce que je l'ai vu, c'est en demandant à Jésus. Je pourrais vous raconter des heures et des heures des choses que j'ai racontées. Mais deux ou trois. Une ferme. 320 vaches. 186 de mortes. Trois nouveaux tracteurs en panne sur le même quart d'heure. Pourquoi? Parce que quelqu'un dans le village fait de la sorcellerie et voulait la ferme. Et pourquoi donc? L'ambition, la convoitise, alliée à l'occultisme. Nous sommes donc allés, à l'invitation de ce paysan et de son vétérinaire bouddhiste, qui avait fait des analyses de sol, des analyses du sang, même des bêtes qui étaient mortes, etc. Il n'avait rien trouvé. C'est eux, ce paysan et ce vétérinaire bouddhiste, qui sont venus lors dans une de nos réunions bibliques, à 60 km de chez eux, nous surprendre et nous demander si on pouvait venir. Nous avons prié, un chrétien de notre église et moi. Et les bêtes ne pourraient plus. Les tracteurs ne tombaient plus en panne. Pourquoi? Parce que nous avons demandé à Jésus d'intervenir dans la vie de cette maison. Bien des autres choses comme ça. Bien des autres choses, mes amis. C'est trop long à expliquer et je ne veux pas faire la réclame de celui que je n'aime pas et qui existe bien. Mais Jésus n'a aucun intérêt pour ce personnage, cet ange révolté contre Dieu, qu'on appelle Satan. Il n'a aucune sympathie. Il a même de l'autorité contre lui. Et nous pouvons réclamer, si nous avons vraiment foi en Jésus, son autorité pour arrêter ces choses. D'autre part, nous allons au verset 17, Matthieu 8, 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Nous trouvons ce verset dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, et nous le trouvons dans Isaïe 53, 8 siècles avant. Jésus était annoncé par le prophète Isaïe, donc par Dieu, comme portant nos maladies, nos souffrances. Il est donc essentiel que quelqu'un qui est malade confie sa maladie à Jésus. Ça, c'est un chemin royal. Il y a un an et demi, mon épaule droite était complètement démolie, inutilisable, inopérable. Le professeur, le médecin, chirurgien, me dit: c'est déchiré, c'est troué, c'est pas possible. Alors, sachant qui j'étais, il me dit: il faudrait peut-être attendre la résurrection. J'ai dit: je vais l'attendre, et je vais pas attendre longtemps. Le ressuscité est vivant, je vais lui demander de s'occuper de mon épaule. Et un an après, je prenais le marteau et le burin, je refaisais des trous dans les murs et je travaillais avec mon bras droit, qui était une véritable loque remplie de douleur. Confiez vos maladies, confiez vos sujets de difficultés physiques et de difficultés mentales à Jésus, s'il vous plaît. J'ai un beau-frère qui est psychiatre, athée, et qui m'a toujours dit: les gens qui ont la foi s'en sortent mieux que les autres. Il ne m'en a pas dit plus. Mais croyez-le bien, il n'a pas dit pour me faire plaisir. Il l'a dit parce que c'est un homme très franc et qui a toujours été loyal avec moi. Les maladies, les infirmités sont à confier à Jésus. Souvent ici, en Europe, nous nous plaignons pour beaucoup de petites misères. Beaucoup de petites misères. Avez-vous déjà été en Afrique, au Bangladesh, au Pakistan? Là, il y a la misère. Mais pour en prendre une misère qui est pas loin d'ici, à 25 km de chez moi, une personne qui mesure 1,5 m, 58 ans, et qui a toutes les vertèbres soudées depuis la naissance et qui est remplie de polyarthrite, de douleur, qui a une foi immense, et qui connaît Dieu, on en parle tous les deux. On se connaît depuis des années. Elle a une force d'âme, une force spirituelle que je ne rencontre pas dans la rue, nulle part. À la résurrection, cette belle âme, dans un corps qui ne sera plus touché par la maladie, qui sera complètement remis à niveau par la puissance du ressuscité, cette personne participera au royaume de Dieu. Corps, âme et esprit en bonne santé. C'est cela qui est annoncé ici. C'est ça qui est annoncé déjà à travers ce chapitre 8 de Matthieu. Alors prenons maintenant Matthieu 8, verset 18. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Il donne un ordre. C'est un chef. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Que faut-il penser de ce verset ? Jésus invite ce scribe à avoir la foi en lui et ne pas se soucier de la matérialité de sa vie. Seriez-vous capable d'obéir à Dieu en disant « Les soucis matériels ne sont pas premiers. Le confort n'est pas le premier. Ce qui est le plus important pour moi, c'est la foi. C'est cette adhésion à Dieu, à ce Dieu de paix et de vérité qui conduit mon âme dans la paix, dans la vérité, et qui transforme mon être tous les jours en un être d'amour, un être d'ouverture à tous. Cela est bien plus important que d'avoir une belle maison. Donc Jésus propose à cet homme, qui est un homme sans doute très soucieux d'avancer, d'aller vers Dieu, « Je te suivrai partout où tu iras », lui montre qu'il y a des renoncements. Et à 16 ans, ce qui m'a touché dans mon cœur fondamentalement, qui m'a fait sortir de ma mélancolie, de ma souffrance, un peu inhérente dans ma vie comme ça, en voyant le monde comme il était, c'est ce verset. Celui qui me donne sa vie, il la sauvera. Celui qui veut la conserver pour lui-même, la perdra. C'est en parallèle à ceci. Quand j'ai lu ce verset, je ne me suis pas dit, je vais y croire. Je l'ai accepté. C'est différent. Je l'ai accepté, je l'ai fait mien. Et cette mélancolie que j'avais, finie. Et tout le reste de ma vie a été toujours rempli d'élan, de zèle, de force, bien qu'il y ait eu des sales épreuves. Donc, le Seigneur demande un dépouillement pour retrouver quelque chose de meilleur. Les forces ne sont pas dans ce qu'on croit, dans la nourriture, dans le savoir, dans les beaux bâtiments, les belles voitures. La force est en Christ, est en Jésus. Il nous enrichit de sa pauvreté. Alors, nous allons continuer. Je vous ai déjà parlé de ce verset. Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Vous savez qu'au Moyen-Orient, partout, les enterrements, il y a 300-400 personnes, 600, ça dure plusieurs jours. Et c'est formidable, apparemment. On compatit à la souffrance, mais c'est d'un formalisme. Un immense formalisme. Celui qui n'y est pas est mal vu. C'est le moyen sociologique du meilleur contrôle culturel et religieux. Et je pense que dans toutes ces foules qui se réunissent alentour dans les enterrements, il y a souvent très peu de foi. Très peu de foi. On se rassure par le nombre, on se rassure par les rites. Mais un cœur qui adhère à un Dieu qui ressuscite le mort et qui nous dit « Mais tu ne fais que décéder pour un petit peu de temps, c'est tout, tu ressusciteras, tu m'appartiens, tu es à moi. » Très peu de personnes osent croire cela. La foi dans le Dieu de la résurrection n'est pas courant, n'est pas courante. Et c'est cela que les enterrements que nous voyons partout dénient. Le rituel n'est pas spirituel. Le rituel est mort. Alors, nous allons aller plus loin encore. Au verset 23, Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Sachant bien que dans d'autres récits, de Marc et de Luc, ils arrivèrent de l'autre côté, à la rive. Donc, le commandant de bord a dit, au verset 18, il donna l'ordre de passer à l'autre bord, donc de monter dans le bateau et d'aller là-bas. Et le commandant de bord était confiant. Quoi qu'il arrive, la barque est arrivée de l'autre côté. Quelle est la signification de cet événement-là? J'ai été une fois à un enterrement protestant. Le pasteur luthérien était habillé en noir, avec le petit col blanc. Il disait, mais il faut réveiller Jésus. Il faut réveiller Jésus chaque fois que vous avez des difficultés. Il faut réveiller. Mais il n'y a personne à réveiller dans le monde de Dieu. Dieu ne dort pas comme nous. Si Dieu a décidé de dormir là, ou de faire comme s'il dormait, c'est parce qu'il avait complètement confiance dans la destination de sa barque, qu'il était maître des événements, et qu'il voulait donner une leçon à ses hommes et à ses femmes, qui étaient des professionnels de la mer, qui se confiaient dans leurs moyens personnels, dans leur expérience, qui n'avaient plus de moyens humains pour résister à la tempête. Aujourd'hui, avec le coronavirus et bien d'autres choses, notre société va faire l'expérience de son inexpérience, de son incompétence. Elle va faire l'expérience de son désaveu. Il est très risqué qu'il y ait des guerres civiles, il est très risqué qu'il y ait des montées de radicalisme, il est très risqué qu'il y ait des suicides, des maladies mentales qui augmentent en grand nombre. Il est très risqué que des tas de couples explosent, que les enfants ne savent plus où ils en sont, que l'enseignement ne soit plus suivi, que les maîtres, les enseignants ne savent plus ce qu'il faut faire, les gouvernants non plus. C'est possible. La grande tempête est là. Jésus dort. Est-ce que Jésus dort? C'est nous qui sommes persuadés qu'il est absent. Parce que nous nous confions sur nos propres besoins. Nous nous confions en nous-mêmes. Nous avons toujours, avec la rationalité, espéré maîtriser tout. Je reviens à ce beau frère que j'aime bien, qui est psychiatre, qui m'a dit, on a tout construit en Europe sur la rationalité, sur le rationalisme. Mais il y a un élément incroyablement mis de côté et qui va nous jouer des sales tours. Et je lui demande, mais quoi? Parce que tout a l'air de baigner, il y a de ça 30 ans, hein, 35 ans, 40 ans, il m'a dit ça. Mais c'est l'irrationnel, Jean. Il va revenir à la charge. À un moment donné, il est immaîtrisable. Et donc, il est évident que dans des situations difficiles, la raison disparaît. Et les superbes ne savent plus où ils en sont. Je vous invite à vous tourner vers Jésus. Si vous avez l'impression qu'il dort, vous faites une illusion. Il est ressuscité, il est vivant et tout-puissant. Je ne désarmerai jamais, ni ma famille, ni notre Église, d'avoir l'espérance de continuer à aimer les autres, de continuer à savoir qu'il y a un avenir pour les hommes, mais un avenir qui repose sur Dieu, pas un avenir qui repose sur les hommes, parce qu'ils font tout foirer. Et je suis allé dans une famille il n'y a pas longtemps, une famille de réfugiés, pas des gens qui ont fait des études, et qui sont d'origine syrienne et qui m'ont dit ceci. Jean, nous, on a un proverbe dans nos tribus kurdes où il dit ceci. Plus un homme a de la culture et du savoir, quand il se trompe, plus ses gaffes sont dangereuses. Quand c'est un homme simple et qui n'a pas de beaucoup de culture, quand il fait une gaffe, elles sont sans grandes conséquences. Eh bien, comme on a poussé l'intellectualisme dans notre société, on a poussé les universités, on a poussé le savoir, et pas l'humilité, pas la confiance dans le Seigneur, nous sommes le bec dans l'eau avec notre intellectualisme. L'irrationnel arrive à fond la caisse. La tempête est là. Comment Dieu peut-il arrêter cette tempête? Eh bien, dans cette histoire, nous voyons que Jésus arrête la tempête. Et il est évident que les tribulations de ce monde devront être arrêtées par le Seigneur Jésus. Il a promis de revenir. Mais nous allons être humiliés parce que nous avons pris trop confiance en nous-mêmes. À tort. On peut avoir confiance en soi. Il ne faut pas avoir une mauvaise image de soi. Dieu ne l'a jamais demandé. Mais une image vaniteuse, orgueilleuse de toutes nos pensées, de tous nos systèmes, ça Dieu ne l'a pas demandé. Toutes nos valeurs doivent être basées sur la justice, sur l'égalité entre les nations. Il faut que tout le monde ait à manger sur la terre. Tout le monde. Le droit à l'éducation. Comment se fait-il qu'on a fait marche arrière de plus en plus? Donc, nous n'avons fait que mentir. La tempête est là à cause de cela. Alors, je voudrais bien prendre ce texte du commandant de bord qui réussit sa mission. Il réussit sa mission quelle que soit la tempête. Ça, c'est le propre de Jésus. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. J'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Matthieu 28, 18 à 20. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire quoi, fin du monde? La fin du temps des nations, des superbes, de ceux qui croient qu'ils contrôlent le monde et ils ne contrôlent rien en fait. Ils sont en train de se casser le nez. Et la fin des nations menée par l'orgueil, la vanité. Pour un temps où le Seigneur Jésus apporte la sagesse, pas la dictature religieuse, la sagesse spirituelle du haut des cieux est déposé dans l'humanité, et on appelle cela le royaume de Dieu. Et cet orgueil, cette vanité qu'on appelle le péché est out, dehors. Ça, c'est le temps du royaume. Le mot péché vient du mot pécha en hébreu, où un archer prend un arc, tire une flèche et rate son but. Nous avons péché, nous avons raté notre but. Parce que nous croyons, nous avons cru que nos visions justes. Alors, la tempête, ici, que nous trouvons dans ce récit, dans Matthieu 8, on trouve, 1000 ans avant, ce récit de tempête. Et c'est très intéressant de le lire. Psaume 107.
J'y vais.
Psaume 107. C'est dans un psaume, je ne vais pas tout lire, mais voici. Verset 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, donc des professionnels comme les apôtres, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient, imaginez le bateau qui grimpe, hein. Ils montaient vers les cieux et descendaient dans l'abîme. et leur âme était perdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple, qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens. Vous voyez ce que Dieu demande ? Simplement qu'on le loue, qu'on le remercie. Ça coûte pas cher, ça, quand même. Mais là, on voit, dans ce psaume 107, un récit de tempête en mer, alors que les Hébreux ne sont pas des marins, que David, qui a écrit cela, n'a pas été en bateau. Il ne connaît pas cette situation. Ça s'appelle une prophétie. Et cela annonce ce qui est arrivé à Jésus et à ses disciples. Et qu'est-ce qui est mis dans ce psaume ? Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, donc les vagues, les ondes, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Donc Dieu était là. Dieu était là dans la situation. Chers amis, dans la situation d'aujourd'hui, Dieu est là. Mettez-vous à genoux dans votre chambre, dans le secret de votre cœur, et parlez-lui. Dieu est là. Confiez-vous en lui. Ne laissez pas gagner la crainte et l'angoisse. Ne commencez pas à boire, à fumer, à vous divertir, à faire des mangeailles pour soi-disant combler cette angoisse. Vous n'y arriverez jamais. Dans Ésaïe, 760 avant Jésus, chapitre 51, verset 16, 15. Je suis l'Éternel ton Dieu qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées, donc des anges, est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche, je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Réveille-toi, réveille-toi. Réveillons-nous, les amis. Dieu est à la maîtrise des événements. C'est parce que nous n'avons pas voulu. Nous l'avons éjecté. Et nous avons le chaos. Je ne parle pas des religions institutionnelles, des grandes religions, qui ont toujours profité de l'establishment et qui ont maintenu le peuple dans l'ignorance. Je ne parle pas de ça. Je parle du vrai Dieu, de Jésus, qui veut que chacun agisse intelligemment, avec un esprit renouvelé, compétent, animé par l'Esprit Saint de Dieu. Dans le psaume 107, nous trouvons aussi des parallèles au psaume 93. Le psaume 93 ou 93, pour les Français, dit ceci. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Regardez la force de la foi de David, le petit berger. Ton trône est établi dès l'état ancien, tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes, plus que la voix des grandes, des puissantes eaux. Des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables, la sainteté convient à ta maison, Éternel, pour toute la durée des temps. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes, plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. Psaume 98, 98, verset 7. Que la terre retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse, que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel. communautairement, écologiquement, spirituellement, tournons-nous vers Dieu. Il est encore temps. Le commandant de bord ne dort pas. C'est nous qui sommes persuadés à tort qu'il dort. C'est nous qui nous sommes arrangés, parce que nous nous confions dans nos propres forces, pour qu'il reste au bout du bateau comme s'il n'était pas nécessaire. Mais s'il n'était pas vraiment du tout nécessaire, il ne serait pas monté dessus. Il savait qu'il serait nécessaire. Il s'est mis là. Et il reste là. Dieu est là. Jésus est là dans ma vie. Mais il est au bout. Puisque je ne le trouve pas nécessaire, il se met au bout. Oh, ben il dort, oui. Croyez-vous ça? Croyez-vous cela? C'est une grave erreur. Alors, l'autorité de Jésus, dans 8.32, Matthieu 8.32, l'autorité de Jésus est extrêmement forte vis-à-vis des démons. Ce récit, bien sûr, ne plaît pas aux rationalistes. Mais ma foi, moi aussi, j'étais rationaliste. Je vais vous le dire, hein. Matthieu 8, verset 28. « Lorsqu'il fut à l'autre bout, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit, « Allez !» C'est un ordre. Ils sortirent, ils entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita, des pentes escarpées dans la mer, ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux deux démoniaques. Alors, toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Bien sûr, il n'était pas question de perdre vos vaches cochons couvées, c'est-à-dire leur économie, leur richesse économique, il valait mieux que Jésus s'en aille et que quelques démons de temps en temps ruinent la vie de personne. Ici, nous voyons au verset 29, « Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Donc dans Apocalypse 20, verset 10, il y a un temps fixé où Satan et ses anges sont radicalement mis de côté. Et donc ils le savent. Et ils sont tourmentés parce qu'ils savent qu'ils seront exclus de la scène du monde, ils seront exclus, ils n'auront plus d'influence. Alors, pourquoi deux pauvres êtres sont-ils possédés? Pourquoi? On pourrait se le demander. C'est beaucoup trop long à vous expliquer, chers amis. Mais j'en ai rencontré plusieurs fois. Et évidemment, il faut beaucoup de prudence avec ce genre de personnes et prier et rechercher les causes. Et surtout, demander à Jésus de guérir. Je vais donner un exemple. Un jour, une dame vient en visite chez moi et me parle de sa fille qui est une grande épileptique, 26 ans. Placée dans un hôpital pour épileptiques au sud de la France. Comme j'avais été infirmier pendant un an, brancardier infirmier pendant un an à l'hôpital militaire à Liège, et qu'il y avait des malades psychiques, autant que physiques, j'étais souvent à leur contact, et je dialoguais avec eux. Et j'étais très proche d'un médecin extrêmement compétent. C'est une grande chance pour moi dans ma vie d'avoir connu cet homme, le major Denis. Et cet homme était humble et extrêmement compétent, d'une personnalité humaine très riche. Et j'étais devenu pendant un an son bras droit. J'étais content de ma place auprès de cet homme. J'apprenais tellement de choses. Il y a eu des malades psychiques qui sont arrivés. Et il m'a dit, Jean, je te demande de ne pas aller trop près, faire confiance. Certains peuvent tuer, etc. Mais ces personnes souffraient. De ce fait, beaucoup d'infirmiers et d'infirmières ne les fréquentaient pas. On leur donnait des médicaments et ils étaient tout seuls dans un lit à l'écart des autres. Et ces personnes souffraient. Et donc quand moi j'avais du temps, j'allais tout près de ces personnes et je les écoutais. J'étais favorable à ces personnes. Schizophrènes, paranoïaques, etc. Tout en écoutant les mises en garde de mon cher médecin. Toutes ces personnes avaient reçu tellement de détriments dans leur vie, dans l'enfance, tellement de sévices, tellement de choses ignobles. Chers amis, il y avait des puissances en eux qui étaient immaîtrisables. J'ai toujours prié pour ces personnes. Et Dieu a voulu que j'en rencontre régulièrement à cause de cela. Parce que mon cœur cherche à les aimer. Ici, dans le pays de Gadara, les gens n'aiment pas ces deux personnes. Ils aiment autant qu'ils restent comme ils sont. Après la guerre de 40-45, il y avait des gens très troublés qui circulaient dans tous les villages et chacun les recevait à table. Donnait une tartine, donnait de la soupe, les faisait travailler une journée, etc. Ces gens erraient, étaient égarés. Maintenant, ils sont dans des maisons fermées, une piqûre dans les fesses, et ils sont mis à part et vous ne les supportez plus. Vous en avez peur. Et pourtant, moi, dans mon enfance, je peux vous dire que la population n'en avait pas peur. Elle avait une vie beaucoup plus calme, sereine, et comme cette population comprenait, compatissait aux dégâts qu'avaient apporté ces vilaines guerres de 14-18, 40-45 dans les esprits de certains esprits plus faibles, ils accueillaient avec amour ces personnes et avec patience, sans s'en moquer. Quelle civilisation voulez-vous? Une civilisation qui met à part tous ceux qui sont amochés, abîmés par toutes sortes de choses qu'ils n'ont pas choisies souvent. Où voulez-vous une civilisation où nous partageons ensemble les fardeaux de tous, à taille humaine? Eh bien, Jésus a fait son choix. Et son choix s'établira un jour sur terre. Parce que notre société devient de plus en plus dure, nombriliste, narcissique, financière. Jésus viendra pour refaire ce monde tel qu'il l'entend, pas tel que les hommes le veulent. Ici, ce récit témoigne de la volonté de Jésus de délivrer les hommes de leur misère. Si vous ne croyez pas aux démons, sachez bien que de toute façon, un schizophrène, un paranoïaque et bien d'autres choses, un bipolaire, sont des personnes qui souffrent. Et j'ai toujours choisi de m'en approcher et de les aimer avec une certaine fermeté, une certaine distance, mais en reconnaissant leur valeur. Je vous invite à le faire. Ce texte de la Bible n'est pas un récit anecdotique. C'est un récit qui vous invite à avoir de l'indulgence, de la compréhension et une force d'âme exceptionnelle. Demandez-la à Jésus. Jésus est capable de donner de la force pour rencontrer les êtres abîmés qu'il y a de plus en plus dans notre société. Et les êtres abîmés ne sont pas forcément toujours les clochards, les gens qui fument des joints au coin des rues à 2-3 heures du matin. C'est parfois des gens qui ont pignon sur rue et qui ont un bon boulot et qui ne s'en sortent plus. L'âme est dans les profonds tourments. dans les grandes tempêtes. Alors, revenons à l'amour de Dieu. Revenons à l'œuvre de l'amour de Dieu sur terre. Revenons à l'œuvre de Christ. C'est cela qu'il veut. Paix, justice, amour et joie selon Saint-Esprit. Le royaume de Dieu n'est pas le manger ni le boire, mais paix, justice et amour et joie selon Saint-Esprit. Romains 14, 17. Si vous avez compris cela, je dépasse tout ce cadre du diable ou pas diable de Matthieu 8. Et je vous invite à trouver le chemin avec Jésus, car ce monde se perd sans lui. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, et bon courage, bon courage. Il vous aime, il est là. Vous avez l'impression qu'il dort, qu'il est au bout du bateau, vous le voilà percevez à peine à travers les épreuves que vous vivez. Allez le trouver, parlez-lui, même si vous ne le voyez pas. Et vous aurez des signes de sa puissance et de son amour. À bientôt. Il n'y aura pas de prédication mercredi ni vendredi. Nous sommes à Paris, nous devons visiter des amis, des églises, etc. Ça sera à lundi prochain. Soyez bénis.